Chapitre 8 du roi de la cité merveilleuse. L'armurerie du roi. Dans la maison du roi, on apprenait aux enfants dès l'âge le plus tendre qui il était, combien il les aimait et ce qu'ils devaient faire pour lui en retour. On leur enseignait aussi ce qu'était Malinus, méchant et cruel, comme il les haïssait parce qu'ils appartenaient au roi et qu'ils étaient sur le chemin de la terre heureuse dont l'entrée lui avait été interdite. Ils savaient qu'il fallait obéir au roi. Toutefois, on ne leur demandait pas d'aller combattre pour lui avec l'armée royale. Ils étaient les enfants du roi qui deviendraient plus tard ses soldats. Vous serez peut-être surpris que les plus jeunes eussent à guerroyer si tôt. Mais les enfants exercent très volontiers leur force, et plus la lutte est acharnée, plus les soldats sont incorporés jeunes. La guerre entre le roi de la cité merveilleuse et Malinus le traître était la plus meurtrière que l'on puisse imaginer, car si tel soldat n'en sortait pas victorieux, il n'y avait plus moyen pour lui de prendre part au combat. Dans ces conditions, les enfants, les filles aussi bien que les garçons, devaient être parfaitement instruits et instruits jeunes. C'était merveille de voir avec quel magnifique courage se battaient quelques-uns d'entre eux, comme ils obtenaient vite des grades et à quel point leur vieil ennemi rusé en venait à avoir peur d'eux. Un jour, Dilecta fut appelée en la présence du roi. Elle était si habituée à se rendre près de lui, sans cérémonie, qu'elle se sentit un peu effrayée lorsque le prince gardien lui recommanda de s'agenouiller devant le roi et d'écouter très attentivement ses paroles. Non sans trembler, elle s'agenouilla, le prince se tenant respectueusement à sa droite. « Mon enfant, dit le roi, tu es assez grande pour être enrôlée dans mon armée. Malinus devient de plus en plus violent et rusé, et ce qu'il ne peut accomplir par lui-même, il va employer d'autres à le faire pour lui. Tu commences à prêter l'oreille à des gens qui ne sont pas de mes amis, n'ont pas peur de violer mes lois, et se moquent de mes serviteurs qui essayaient de les observer. » Outre ses ennemis du dehors, tu as toujours soi avec toi. Elle croit rapidement en force et en hardiesse. Il faut que tu grandisses toi aussi, de façon à être capable de garder ton terrain et de combattre plus bravement que tu ne l'as fait encore. Je n'ai jamais envoyé personne à la guerre sans lui fournir un équipement convenable. Le prince gardien va te conduire à l'armurerie et te donner ce qu'il faut. Dilecta fut enchantée et partit en posant des questions tout le long du chemin. L'armurerie était un endroit merveilleux. Là se voyaient les armes de maints braves soldats qui les déposèrent seulement lorsque la bataille fut livrée et gagnée et que les palmes de la victoire eurent remplacées dans leurs mains. Le prince gardien la fit entrer et circuler parmi les trophées de guerre et lui expliqua pourquoi ils étaient gardés précieusement en cet endroit. « Voici l'épée que saint Ignace de Loyola suspendit lui-même dans la main de Dieu pour montrer qu'il allait être dorénavant soldat du roi des rois. Appuyé contre elle était le bouclier de sainte Jeanne d'Arc, la brave jeune fille qui combattit pour Dieu et pour son pays. » Dilecta était extrêmement intéressée par tout ce qu'elle voyait. Épée et bouclier, casque et cuirasse et chaussures. Elle réussit à déchiffrer les inscriptions. Sur l'épée, foi. Sur le bouclier, confiance en Dieu. Sur le casque, prière. Sur la cuirasse, défiance de soi. Sur les chaussures, patience et persévérance. « Je trouve, prince, observa-t-elle, que le bouclier et la cuirasse sont à peu près la même chose. Du moins, ils doivent toujours aller ensemble, dit Lecta. Défiance de soi sans confiance en Dieu signifie découragement. Par là commence tout le mal, comme tu t'en es rendu compte. Quelle quantité de casques ! Il y en a plus que je n'en suis capable d'en compter. Oui, car chaque victoire est remportée par la prière. Ne t'imagine jamais que tu peux mener le combat toute seule. Demande vite du secours dès que tu aperçois ton ennemi. Regardez toutes ces chaussures. Les soldats ne s'en servent pas pour combattre. Pourquoi sont-elles là ? Pour montrer que la patience et la persévérance, cheminant péniblement heure par heure, sont nécessaires à chaque guerrier. Les occasions de mettre l'ennemi à terre par un coup de feu bien dirigé ne se rencontrent point tous les jours, pas plus que celles de se mesurer avec lui, armé de l'épée et du bouclier, sur le champ de bataille. Mais chaque jour, il y a la marche fatigante, l'ennuyeuse routine du devoir, les souffrances et les privations inséparables de la vie sur le front. C'est le piétinement constant des pieds lassés qui, plus que toute autre chose, conduit un homme à la victoire et à la récompense. Dilecta prit mesure pour son équipement, confit exactement à sa taille. Et quand tout fut prêt, son prince gardien l'amena au roi et à sa cour. Elle s'agenouilla devant eux tous, plaça ses petites mains jointes dans les mains du roi et promit d'être un bon soldat et de rester fidèle. Puis elle fut solennellement enrôlée dans l'armée régulière et on lui donna un insigne par lequel tout le monde saurait qu'elle serait désormais un soldat. Cet insigne serait une honte si elle devenait infidèle au roi, mais une marque de distinction et de gloire si elle lui demeurait fidèle et combattait bravement pour lui. L'épée, le bouclier, le casque, la cuirasse et les chaussures, le roi lui donna tout cela. De plus, il lui promit que quel que fût le secours dont elle aurait besoin, elle le recevrait à la minute où il lui serait nécessaire, si seulement elle le demandait. À la fin de la cérémonie, le roi donna à la fillette une petite tape sur la joue, non pour lui faire mal, mais seulement pour lui rappeler qu'elle devait s'attendre à souffrir pour sa cause. Ses trois ennemis auraient plus que jamais l'œil sur elle, et à l'exemple d'un soldat commandé de rester au garde à vous, il faudrait qu'elle fût toujours sur le qui-vive. Deux de ses ennemis, Malinus et Soie, vous les connaissez. Ils étaient comme les deux doigts de la main et travaillaient généralement ensemble. Le roi parlait du troisième ennemi en disant que Malinus avait des complices ou des aides qui accomplissaient pour lui ce qu'il ne pouvait pas faire par lui-même. C'étaient des hommes, des femmes et même des enfants incapables d'attendre les bonnes choses de la cité merveilleuse. Ils déclaraient qu'ils voulaient leurs bonnes choses dès maintenant. « Notre vie, ajoutait-il, est triste et courte comme le passage d'une ombre. Venez donc et jouissons des biens présents. Couronnons-nous de roses avant qu'elles ne soient flétries. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. » Ces gens-là haïssaient les rudes travaux et les peines de toutes sortes. Ils n'aimaient que manger et boire, se parer et se divertir, prendre le plaisir sous toutes ses formes. Ils voulaient avoir tout le bien-être que l'argent pouvait leur procurer, être admirés, loués, honorés. Ils se qualifiaient de joyeux, mais leur vrai nom était les insensés. « À quoi les reconnaîtrais-je ? » demanda Dilecta à son prince gardien. « Je connais Malinus et je connais Soie, par ce qu'ils disent et font. Mais comment distinguerais-je les frivoles ?» De la même façon, parce qu'ils disent, parce qu'ils font et parce qu'ils aiment. Ils ne parlent que des bonnes choses de la terre d'exil et ne songent qu'à se satisfaire et à s'amuser. Ils ne font rien pour mériter les récompenses du roi de la cité merveilleuse et ne craignent point de lui déplaire. Aussi, bien loin de désirer lui obéir, ils essayent tant qu'ils peuvent de détourner les autres de son service et de les amener à abandonner le sentier étroit et escarpé qui est la grande route du roi. Ils s'efforcent d'entraîner ses serviteurs dans le large chemin qui appartient à Malinus et conduit à sa demeure. Prends garde à eux, ils font l'ouvrage de leur maître, et si tu vas avec eux, tu deviendras comme eux et partageras leur sort. Chapitre 9 du roi de la cité merveilleuse. L'infirmerie du roi. Je dois vous dire que l'équipement remis aux soldats du roi le jour de leur enrôlement dans son armée, quoique absolument réel, était invisible pour les autres, mais aussi pour eux-mêmes. Dilecta ne voyait pas le sien, tout en le sentant souvent. Elle savait qu'il lui appartenait, et elle était presque impatiente que Malinus et ses aides se présentassent afin de pouvoir essayer ses nouvelles forces contre eux. Il fallut que son prince gardien lui rappelât que la prudence et la méfiance de soi faisaient partie de son équipement, qu'on devait se servir du bouclier et de la cuirasse et tenir prêt son casque en vue du danger quelconque pour s'empêcher d'être téméraire. Lorsque les soldats du roi étaient vaincus dans une bataille, deux choses avaient lieu. Ils étaient blessés plus ou moins grièvement, et leur robe blanche était souillée. Si la blessure était légère, la robe n'était que tachée. Si la blessure était mortelle, la robe blanche était non seulement salie, mais abîmée, non seulement abîmée, mais tout à fait perdue. Dans les deux cas, le désastre arrivait par leur propre faute. Ou bien ils oubliaient de se servir de leur armure, de réclamer le secours qui leur était nécessaire, ou ils combattaient avec une certaine nonchalance, de sorte qu'un coup bien dirigé par Malinus atteignait un point faible et les blessait. Existait-il un remède fourni par le roi dans ces circonstances? Y avait-il quelque chose à faire pour nettoyer ou retrouver la robe blanche quand elle était salie ou perdue? Pouvait-on montrer de la pitié à un traître qui, abandonnant son souverain et passant à l'ennemi, avait été mortellement blessé? Certainement non, direz-vous. Mais le bon roi ne parlait pas ainsi. Dans son infirmerie, de précieux onguents cicatrisaient même des blessures mortelles. Des infirmières aux mains caressantes, au cœur tendre, soignaient les pauvres blessés jusqu'à ce qu'ils fussent de nouveau bien portants. La robe blanche aussi pouvait être nettoyée ou réparée, les taches noires effacées. Qui donc n'aimerait point et n'essaierait pas de servir fidèlement un roi si bon et si clément? Une raison pour laquelle l'infirmerie du roi se trouvait toujours pleine de brancards chargés de blessés montant continuellement les escaliers, c'était parce que ses sujets ne prenaient pas la nourriture quotidienne qui leur réservait pour les garder bien portants et les faire croître en santé et en vigueur. Ils en usaient quelquefois, mais pas aussi souvent que souhaitait le roi. C'est pourquoi beaucoup d'entre eux étaient faibles et maladifs et donnaient l'avantage à Malinus quand il venait les attaquer. Quelques-uns assistèrent à la fête du roi et le virent faire le tour des invités avec ses riches présents ou des remèdes pour les maux, mais ils oublièrent de solliciter quoi que ce fût lorsqu'il vint à eux. Peut-être ne comprirent-ils pas qu'ils disaient bien la vérité en appelant la nourriture qu'il avait préparée leur pain quotidien. Peut-être n'étaient-ils pas sûrs qu'ils leur donneraient vraiment ce qu'ils demandaient lorsqu'ils répétaient « Demandez et vous recevrez ». Dans tous les cas, perdre une telle occasion était insensé de leur part, comme ils s'en aperçurent plus tard. Ah merde. Bon. Chapitre 10 du roi de la cité merveilleuse. La petite fille a un accès de paresse. quoique le prince gardien fût toujours à portée de la voix dès que Dilecta en avait besoin, et bien qu'aucun mal ne pût l'atteindre sinon par sa propre faute, il l'avait averti qu'elle devait veiller sur elle-même et ne pas se jeter dans le danger. Plus d'une fois, elle avait appris à ses dépens ce qu'il en coûte de jouer avec le feu. Vous avez peut-être entendu parler de l'homme qui disait à un voleur « Il y a deux côtés dans ma maison, l'intérieur et l'extérieur. L'intérieur, je le garde pour moi. L'extérieur, je vous l'abandonne. » C'était le privilège de tous dans la terre d'exil que chacun était maître absolu chez lui. Impossible de pénétrer dans la maison par la force. Les portes s'ouvraient à l'intérieur et les fenêtres étaient garnies de barreaux. Personne ne pouvait entrer sans être introduit par le propriétaire. Malinus ne manquait pas de se rendre excessivement désagréable au dehors. Il dérangeait, menaçait et même épouvantait les gens. Il venait aux fenêtres, cajolant et faisant des promesses. Mais le plus petit enfant savait que tant que les habitants disaient « non », ils resteraient dehors. S'il leur arrivait malheur ensuite, c'était de leur faute. Un jour que Dilecta, en veine de paresse, se tenait à la petite fenêtre de sa cabane, songeant combien c'était ennuyeux d'être obligé d'apprendre des leçons et d'obéir, et quelle belle chose ce serait d'être une princesse un jour, on frappa doucement à la porte. Je doute, lorsqu'elle l'eut remarqué, si elle avait été occupée à travailler. Mais comme elle ne faisait rien, elle entendit. La fillette connaissait cette façon de frapper, et son prince gardien lui avait conseillé de ne jamais écouter, de s'éloigner tout de suite de la porte et de se mettre au travail. Le prince l'appela, et au lieu de lui répondre, elle se dit qu'elle ouvrirait la porte un tout petit peu, seulement pour jeter un coup d'œil ex-dehors et voir qui était là. Elle souleva le loquet, et aussitôt, un grand pied affreux se fourra à l'intérieur, puis une main décharnée se glissa dans l'entrebâillement et essaya de saisir la fillette. Oh, comme elle était effrayée! « Prince, prince !» cria-t-elle, « venez vite! Je ne peux pas tenir la porte, il pousse si fort !» Sur le champ, le prince parut à ses côtés. Mais ce ne fut pas chose facile que de faire sortir de la cabane la main et le pied. Quand on réussit enfin, le prince gardien dit « Tu as eu tort, mon enfant !» Et si tu n'avais pas vite appelé au secours, Malinus serait entré tout droit. Il t'aurait fait un mal terrible et le roi eût été très fâché. Il faut que tu lui dises immédiatement combien tu regrettes ce qui s'est passé. » Dilecta rencontra le roi bientôt après dans le bois et lui raconta sa triste aventure. Voyant qu'elle en était désolée, le roi lui pardonna. Mais la première fois qu'il vint dans la petite cabane et qu'elle s'agenouilla à ses pieds en le regardant dans les yeux, l'enfant vit qu'il n'était pas tout à fait le même que d'ordinaire. C'était grave, et il ne souriait ni ne lui caressait les cheveux. Il paraissait triste. « Cher roi, dit-elle, pourquoi ne me parlez-vous pas aujourd'hui ? Est-ce parce que j'ai été méchante la semaine dernière ? Cependant, vous m'avez pardonné, n'est-ce pas ?»« Je t'ai pardonné, Dilecta, répondit-il. Je te pardonnerai toujours dès que tu auras du regret et viendras vers moi. Mais je veux que tu saches que précisément parce que je t'aime beaucoup, je suis triste quand tu me désobéis. En me blessant, tu te blesses aussi, et c'est ce qui me peine. Bien que je t'ai pardonné, tu me dois une punition, chaque fois que tu commets une faute. Tout cela doit être réglé avant que tu ne sois admise dans la cité. Je désire t'y avoir bientôt, mais tu seras obligée d'attendre dehors jusqu'à ce que tu n'aies plus de dettes. Comment puis-je les payer, mon cher roi ? Par tout ce que tu feras pour me plaire, même les choses que tu aimes et en supportant patiemment celles que tu n'aimes pas. Le froid et la faim, le travail pénible, les contrariétés, les paroles maussades, la lutte avec toi-même quand la tentation vient et que tu as envie d'être paresseuse ou désobéissante ou peu aimable. Chaque fois que tu essaies de dompter soi, tu diminues ta dette. C'est parce que je veux que tu aies tout réglé avant que je ne t'emmène dans la terre heureuse que je laisse les ennuis t'atteindre ici. C'est l'argent que je te donne pour t'acquitter. Rappelle-toi ces paroles et tu ne seras pas impatiente. Sache que je t'envoie les épreuves parce que je t'aime. Tu as vu que j'étais grave et silencieuse ce matin en entrant dans ta cabane. Pense que tu le méritais, que cela te permettra de payer ce que tu dois et tu ne te sentiras ni découragée ni triste. Chaque fois que je viens à toi, je viens pour t'aider, même lorsque je ne parle pas beaucoup et ne montre pas tout l'amour qui est dans mon cœur. Ces jours-là, je distribue à ceux que j'aime l'argent avec lequel ils peuvent se libérer envers moi. » La petite Dilecta leva les yeux vers le roi à travers ses larmes et dit doucement en le reconduisant à la porte. « Ai-je payé un peu de ma dette aujourd'hui ?» Chapitre 11 du roi de la cité merveilleuse. La voie large. La vie et les devoirs quotidiens de Dilecta n'étaient pas, comme nous l'avons vu, excessivement intéressants. Mais ce qu'elle et le petit monde des villages voisins attendaient impatiemment, c'était la foire annuelle. Bien des mois à l'avance, les étalages, les spectacles forains, les divertissements, les habits qu'on porterait en cette occasion étaient les principaux sujets de conversation. Cette année, il devait y avoir quelque chose de tout à fait nouveau et de passionnant. Personne ne savait exactement ce que c'était, mais une troupe de comédiens ambulants avait été annoncée, dont la représentation serait positivement l'événement sensationnel de la semaine. La jeunesse était dans une joyeuse attente, mais quelques vieillards secouaient la tête et plusieurs pères et mères de famille défendirent à leurs enfants d'assister au spectacle du soir. Le prince gardien de Dilecta ne voulut point en entendre parler pour elle. Ce fut une cruelle déception d'être obligée d'abandonner un plaisir sur lequel elle avait fixé son cœur, et elle le lui fit entendre en termes plus précis peut-être que respectueux. « Ne pourrais-je donc jamais m'amuser ?» dit-elle en pleurs. « Des petites filles beaucoup plus jeunes que moi y vont. Prince, vous me commandez toujours des choses pénibles. Cela vous est égal de me faire de la peine ?»« Ma petite sœur, répliqua-t-il tendrement, tu sauras un jour combien je t'aime et combien je me réjouis de te voir heureuse. Si ce n'était pour te préserver du mal, je ne te demanderais jamais d'aller contre tes préférences et tes sympathies. Il y aura une foule d'autres amusements, mais je ne puis approuver cette représentation. Nous irons ensemble à la foire, nous resterons jusqu'à 8 heures, et puis nous nous en reviendrons. » Marguerite y va et elle restera tout le temps. Marguerite répondra pour elle-même, « Comme ton gardien, je suis tenue de te prémunir contre ce qui serait mauvais pour toi. » Dilecta fit la moue. Elle savait qu'il avait raison. La conscience de la fillette était toujours d'accord avec son prince gardien, de quelque côté qu'allassent ses propres goûts. Mais elle ne voulait pas céder et fut de mauvaise humeur toute la journée. Elle se montra maussade envers les petites filles qu'elle rencontra, maussade envers sa pauvre amie aveugle, maussade même avec la chèvre qui vint réclamer ses gâteries habituelles. Le soir précédant l'ouverture de la foire, la fillette se tenait à la porte de sa cabane, le prince gardien d'un côté, soit comme d'habitude de l'autre. « Dilecta, dit gravement le premier, je vais trouver le roi et je dois lui porter ta réponse. Tu sais qu'il parle par mon entreprise. Veux-tu lui causer une déception ? Le roi viendra me voir après-demain. Je m'expliquerai alors avec lui. Vas-tu, enfant, courir un pareil risque ? Si tu l'irrites contre toi et tu n'as point à espérer sa visite demain ? Et comment sais-tu qu'un autre jour t'est réservé ? À tout instant, des enfants plus jeunes que toi sont appelés par le roi. Ils traversent la sombre vallée pour se présenter devant lui. et entendre leur sentence. S'ils étaient ses amis, lorsqu'ils ont entrepris ce dernier voyage, ils seront ses amis pour toujours. Mais s'ils ne l'étaient pas, « Oh, mon enfant, prends garde, prends garde !» Elle hésita encore, le regarda et vit son visage tourné dans la direction de la cité avec une expression d'ardente supplication. Dilecta comprit qu'il priait pour elle et la dureté de son cœur s'amollit. Un instant de lutte furieuse et la bataille fut gagnée. Tombant sur ses genoux, elle s'écria « Pardonnez-moi, prince, je regrette mes paroles. Dites au roi que je n'irai pas. » Le théâtre était une grande tente dressée au milieu d'un champ. Autour de l'entrée, ornée d'affiches voyantes et de drapeaux éclatants, se pressaient les enfants en groupe admiratif. Ils n'avaient jamais rien vu de pareil et désiraient vivement pénétrer à l'intérieur. Parmi les flâneurs était une fillette nommée Marguerite, qui avait trouvé moyen de réunir un certain nombre de suivantes. Plus âgée et plus à l'aise que les autres, elle les tenait si complètement en son pouvoir qu'elle craignait de la contredire en quoi que ce fût. Sa parole faisait loi, et parce qu'elle leur procurait des plaisirs, elle la flattait et lui obéissait comme une bande d'esclaves, même en sachant qu'elle se conduisait mal. Marguerite et sa bande, comme on les appelait, avaient essayé de gagner Dilecta à leur parti. Mais le prince gardien de l'enfant avait réussi jusqu'ici à tenir la fillette qui lui était confiée à l'écart du chef perfide de sa troupe. Ici, je dois m'arrêter un instant pour vous rappeler quelque chose dont on a parlé plusieurs fois. Une certaine large route de la terre d'exil qui traversait les villes, les visages, village et les hameaux, quelque humble et retiré qu'ils fussent. Tout ce que Dilecta et les enfants du village en connaissaient, c'était qu'elle commençait à une grande distance de là et descendait plus loin qu'aucun d'eux n'avait jamais été. Personne ne savait où elle s'arrêtait, parce que, après avoir fait des circuits, presque à perte de vue, elle tournait court pour disparaître complètement. Cette route n'était pas faite de durs cailloux ni de gravier, mais d'un beau gazon moelleux et élastique. Elle était ombragée par de grands arbres et bordée de chaque côté par des buissons et des fleurs avec des arbres fruitiers çà et là et d'agréables ronds-points où l'on pouvait se reposer. Cela ressemblait plutôt à un parc ou à un jardin public qu'à une grande route, car des fruits délicieux pendaient à la portée des passants qui pouvaient s'offrir eux-mêmes tous ceux qui leur semblaient tentants. La route était toujours remplie d'une foule de gens insouciants et gais, de tout âge et de toutes conditions, vieux et jeunes, gens en élégants à tours, paysans pimpants dans leurs habits voyants du dimanche, flânaient ou s'étendaient paresseusement sur l'herbe, cherchant par divers stratagèmes à tuer le temps et à chasser tout ce qui ressemblait à des pensées troublantes. Parfois venait une musique, et alors les coureurs de plaisir, on pourrait à peine les appeler voyageurs, se mettaient à danser. Des roses croissaient en abondance le long de la route. Les jeunes filles les cueillaient et les enroulaient dans leurs chevelures, quoiqu'on sût fort bien que des petits serpents empoisonnés se cachaient souvent sous les arbustes et piquaient cruellement lorsqu'on les dérangeait. Personne ne paraissait s'instruire par l'expérience, et chacun avait la certitude qu'il ne lui arriverait aucun mal. La vie n'était qu'une partie de plaisir sur cette route fleurie, rendez-vous favori de Marguerite et de ses amis. Dilecta les observait, juchée sur un haut talus, et lorsque des éclats de rire s'élevaient, elle souhaitait parfois de se joindre à la troupe le long de cet agréable chemin. « Cher prince, dit-elle un jour, n'aimeriez-vous pas me voir m'amuser avec les autres ?»« Mon enfant, je suis toujours bien aise de te voir gai, mais pas sur la voie large. N'as-tu jamais remarqué que certains de ces joyeux personnages reviennent le soir avec leurs robes blanches salies et leurs visages mécontents et tristes. Jusqu'ici, Dilecta avait rarement rencontré la bande, mais la foire assemblait tous les enfants du pays qu'elle intéressait également, et Dilecta finissait par se mêler librement à eux pour causer des plaisirs qu'ils se promettaient. On savait qu'elle n'irait pas à la représentation du soir, et il se leva une grande discussion parmi la bande sur les pourquoi et les comment d'une décision aussi extraordinaire. « Marguerite veut que nous y soyons tous, » déclara l'une d'elles. « Elle a organisé un groupe qui l'accompagnera, et Flo doit en être. » Vous avez sans doute oublié que Dilecta était le nom donné par le roi à l'enfant qu'il avait rencontré dans le bois et dont il avait fait sa petite favorite. Pour tout le monde, en dehors du roi, à l'exception du prince gardien, elle était Flo. Partir avant qu'on commence à s'amuser, dit Marguerite, vexée qu'une enfant beaucoup plus jeune qu'elle se mit en travers de ses projets, c'est tout bonnement stupide. Et nous ne supporterons pas une telle absurdité. Elle changera d'avis, voilà tout. Il arriva que Marguerite, observant au milieu de son groupe les derniers préparatifs des divertissements variés qu'on allait leur offrir, aperçut au loin Dilecta qui rentrait chez elle. Sur un signe de leur chef, toute la bande se mit à sa poursuite. Au bout de quelques minutes, elles revinrent avec leur prisonnière. « Pourquoi n'assistes-tu pas à la représentation ?» questionna l'une. « Ce sera le meilleur moment de la journée, » ajoute une autre. « Je ne le manquerai pour rien au monde, » interrompt une troisième. « Je m'en vais, vous dis-je, » répond Dilecta. « Tu pars à 8 heures ? Pourquoi diable te sauves-tu si tôt ? Le plus beau du spectacle ne commence qu'à la nuit. Il faut que je parte à 8 heures. » « Mais pourquoi, pourquoi » insistait-elle avec impatience. « Oh, je sais, » ricane Marguerite, « c'est parce qu'elle se croit bien meilleure que nous, qu'elle ne veut aller nulle part en notre compagnie. Comme c'est beau d'être une sainte !» Et elle joint les mains en prenant un air de componction qui les fait toutes pouffer de rire. « Je ne me crois pas meilleure que les autres et je ne suis pas une sainte, » protesta Dilecta, devenant cramoisie. « Alors, montre-nous que tu ne l'es pas, et fais comme nous, » lui crie-t-on. « Reculez-vous, et je vais vous le montrer. » Elles se jetèrent vivement de côté, et comme une flèche, elle s'élança hors du cercle. Elle était bel et bien sur le chemin de chez elle, avant qu'elles ne fussent remises de leur surprise. Personne n'essaya de la poursuivre, car elle était bien connue à la ronde pour être la plus rapide de la course. Néanmoins, quoique surpassée en finesse, elles ne voulurent pas s'avouer vaincues. Avez-vous remarqué comme elle a rougi quand Marguerite l'a appelée une sainte, raille l'une ? Oui, répond une autre, mais nous l'aurons malgré tout.